n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma. Toutes les deux semaines, on se retrouve autour de notre passion commune. Et si vous avez raté les émissions précédentes, elles sont en ligne à la page de l'émission sur le site de Radio G. Derrière cette émission, on retrouve une fine équipe avec Véronique qui va retrouver le chemin d'un micro. Bonjour Véronique.
Bien le bonjour.
Et Margot. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Li, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous.
Alors vous commencez à nous connaître et à connaître l'émission. Voici le programme de ce soir. Dans la chronique ciné de Margot, on découvre la première vache de cette émission. Vous en saurez plus en fin d'émission. Margot qui a également préparé un agenda rempli de bons conseils. Notre invitée ce soir est Valérie Laprade, directrice de la bibliothèque de la Roseraie à Angers. Une bibliothèque qui a la particularité d'avoir un fonds important de vidéos, axé sur le documentaire notamment, on va voir ça en détail. Et en novembre d'ailleurs, on retrouve le mois du doc, un événement à découvrir dans de nombreuses bibliothèques partout en France. Et bien sûr, on débute cette émission avec la séquence sonore, une plongée dans un film en deux parties. D'abord par une sélection d'extraits, et puis on en parle plus en détail en fin d'émission. Je vous laisse deviner, essayer de deviner, tenter votre chance, quel film a été retenu ce soir, et vous découvrirez ça ensuite.
Sur quoi je travaille ? Je travaille sur quelque chose qui va changer le monde et la vie de l'homme d'aujourd'hui.
Peut-être que je devrais repartir.
Non, c'est trop tard. Vous les avez déjà vus. Si vous tenez à la vie, vous restez. Je les ai appelés des télépodes. Et voici ce qui les fait fonctionner.
Ça explique tout.
Mais non, pas encore. Car je n'ai pas enseigné à l'ordinateur à devenir fou de chair.
Alors, que font-elles ces cabines téléphoniques?
Télépode.
Ce malquêtant de toi, que veut-il?
Il veut me transformer en quelque chose d'autre.
Oh non!
Une mouche est entrée avec moi dans le télépode transmetteur la première fois où je me suis téléporté.
Oh, j'ai peur!
N'aie pas peur!
Non! Ayez peur! Ayez très peur!
J'espère que vous avez quand même envie de rester dans cette émission, même si l'ambiance est un peu inquiétante dès le début. On va maintenant retrouver notre invitée, Valérie Laprade. On l'a rencontrée il y a quelques jours, car elle ne pouvait pas être en direct. Je vous laisse la découvrir, qui travaille à la bibliothèque de la Roseraie.
Bonjour Valérie Laprade, merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer à Radio G. Vous êtes la directrice de la bibliothèque Jean Villard dans le quartier de la Roseraie à Angers et nous sommes très heureuses de vous recevoir. Tout d'abord, afin de mieux vous connaître, je vous propose de parler de votre parcours qui vous a amené à prendre la direction de la bibliothèque Jean Villard.
Alors bonjour déjà, je travaillais déjà sur la bibliothèque Jean Villard. Alors juste un petit rectificatif en fait, c'est la bibliothèque de la Roseraie en fait.
Ok.
Plus que Jean Villard, on est au centre Jean Villard, mais c'est vrai que la confusion se fait souvent. Donc je rectifie juste là.
Merci.
Excusez-moi.
Ouais, merci bien, pas de problème.
Donc je travaillais déjà sur le réseau des bibliothèques d'Angers, sur la bibliothèque de Lafayette avant. Et il y a eu un poste de vidéothécaire qui s'est libéré au moment de la réouverture de la bibliothèque de la Roseraie après le réaménagement de tout le quartier. Donc j'ai été sur ce poste-là en premier. Et puis après, au départ de l'ancienne directrice, j'ai pris la responsabilité de l'équipe et de l'équipement.
Mais est-ce que venir travailler dans une bibliothèque de quartier, c'est un hasard ou c'est un choix au début et puis après ?
Ce qui m'a motivée au départ, c'était la configuration du poste, qui était un poste de vidéothécaire, puisque ça me tenait beaucoup à cœur. J'ai beaucoup travaillé en section jeunesse, mais la vidéothèque, le cinéma m'intéressait beaucoup. Et ensuite, j'ai découvert le travail dans ce quartier de la Roseraie, et qui m'a très vite animée. Et j'ai vu que l'enthousiasme pour le cinéma pouvait faire écho, justement, au niveau du public sur ce quartier-là. À savoir que c'est vrai que sur la bibliothèque, on a une grande mixité, en fait, des différents publics, puisque le public qui est attiré par le cinéma va être très mobile sur le réseau des bibliothèques, puisqu'on est 9 bibliothèques sur Angers. Il y a 2 vidéothèques de quartier et une vidéothèque principale sur Toussaint. Et les amateurs de cinéma sont très mobiles, en fait. Et sur le quartier, ce qui était intéressant, c'était la mixité du public qui pouvait être intéressé justement par le cinéma, de par les partenaires, le public lambda qui vient régulièrement sur la bibliothèque. Donc voilà, un travail en réseau aussi, par rapport à des expositions, par rapport à des projections.
Et donc, le fond vidéo, en fait, le fond DVD, est empruntable à la bibliothèque de la Roseraie, mais aussi ailleurs. Enfin, comment ça fonctionne pour tout usager d'Angers ?
Donc, l'usager de la bibliothèque est inscrit sur l'ensemble des bibliothèques, et il peut aller là où il veut, emprunter là où il veut et rendre là où il veut. Donc, très simple, on vient sur la bibliothèque avec son abonnement, on emprunte. C'est un fond sur la Roseraie, c'est le plus ancien fond de DVD. Donc, il y a 6000 DVD. Et alors celui sur Toussaint, je ne saurais pas te dire là tout de suite. J'ai pas révisé mes statistiques, mais c'est une des plus anciennes vidéothèques. Donc avec cette référence là et le fait que la bibliothèque aussi est grande, agréable, la façon d'y venir est intéressante dans le fait que le tramway arrive sur le quartier, on peut se garer facilement. Donc voilà.
Ok. Et comment on compose un fond vidéo ? Est-ce que le fond vidéo de la Roseraie a une couleur différente des autres bibliothèques d'Angers ?
Sur la Roseraie, on a très vite mis l'accent à la réouverture en 2011 sur le documentaire, en fait. Tous les ans, on s'est raccroché à l'activité nationale qui est le mois du film documentaire autour des films d'auteurs. Et on a mis en place tous les ans, en novembre, une activité, un moment de retrouvailles avec le genre documentaire, en fait, le film documentaire, et avec des moments. Tous les ans, en fait, on se retrouve.
Si, c'est ça, hein, c'est un rendez-vous annuel.
C'est un rendez-vous, chercher le nom avec le public et l'invitation de documentaristes. Donc on a en 2011, quand on a rouvert justement, on avait décidé d'inviter Titi Robin en tant qu'invité principal avec un documentaire qui avait été réalisé sur lui. Donc on a commencé comme ça, de manière assez restreinte avec une ou deux projections. Et puis tous les ans, on est monté en puissance avec de plus en plus de programmation, 2, 3, 4, on est allé jusqu'à 7 films une année de programmation. On travaille aussi en collaboration avec le Bibliopôle qui organise sur tout le Maine-et-Loire cette action du mois du film documentaire. Et donc la couleur, pour revenir à votre question du départ, c'est vrai que notre fond est plus coloré documentaire. On essaye d'acquérir des documentaires vraiment d'auteurs, en fait. On a des grands coups de cœur pour certains grands réalisateurs. Et puis, sinon, on a aussi des séries, on a aussi du cinéma, de patrimoine, entre guillemets, et puis du cinéma plus léger. On essaye de faire référence à Premier Plan aussi, au moment des grands, suivant les grands événements qui rythment l'année.
L'année cinéma à Angers.
Voilà. Ouais.
Et avant de parler un peu plus du mois du film documentaire, je me posais une question. Quand on est bibliothécaire, est-ce que c'est plus compliqué en fait, de s'occuper d'un fonds de DVD qui est peut-être plus périssable que d'un fonds de livres? Enfin, voilà, quelles sont les particularités en bibliothèque de la gestion d'un fonds de cet ordre-là?
Donc, chaque bibliothécaire référent, là, si je rentre un petit peu plus dans le métier, référent va avoir un budget. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est que le DVD, en acquisition avec ses droits de consultation sur place ou d'emprunt dans les foyers, est bien plus cher qu'un livre. C'est un fonds aussi qui peut très mal vieillir quand il passe dans les familles, auprès des petites mains, des enfants qui vont... C'est un support, non pas très fragile, mais quand même qui demande un peu d'attention au niveau du nettoyage, de la façon dont on s'en sert. Donc ça peut être un fonds périssable et... C'est aussi difficile parfois de choisir parmi la grande quantité de ce qui nous est proposé et d'aller aussi plutôt vers les besoins du public, de répondre à la demande du public aussi.
Et par rapport aux usages justement du public dans les foyers, aujourd'hui peut-être qu'on regarde de moins en moins de DVD, de plus en plus de films dématérialisés. Comment les bibliothèques s'adaptent à cette évolution de la société ?
Alors on a un grand moment de flou en ce moment avec l'interruption des fréquentations qui est dans les bibliothèques avec le moment du Covid. Le public a un petit peu changé sa façon de regarder, enfin d'appréhender le cinéma. Et donc il y a beaucoup maintenant de plateformes, d'abonnements, de choses comme ça. Mais je pense que le rôle du bibliothécaire, lui, il est dans la proposition de choix ou de choses un peu plus spécifiques, en fait. Et puis l'accompagnement aussi dans ce choix. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont abonnés à des plateformes, mais qui vont aussi venir à la bibliothèque pour trouver peut-être des choses vers lesquelles on va les guider. Parce que c'est vrai que les plateformes, bon voilà, c'est à tout va, mais on n'a pas forcément le conseil d'une personne. Nous avons aimé cela, ou vous aimerez peut-être une autre telle série, mais vous aimerez telle autre série, ou par rapport à toute l'actualité, on peut faire aussi mettre en lumière un réalisateur qui va sortir un nouveau film, mais la façon de lui proposer tout ce qu'il a fait avant. Ou de faire découvrir une série ou un documentaire, justement, plus particulièrement.
Ce que je trouve aussi intéressant dans la force d'un fonds cinéma, c'est toutes les animations qui peuvent se développer autour. Je sais qu'à la bibliothèque de la Roseraie, vous en êtes friand. Et en particulier, justement, à l'occasion de ce mois du film documentaire, vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Donc la Bibliothèque de la Roseraie y adhère depuis plusieurs années. Je crois que c'est une manifestation au-delà du département, elle est nationale ?
Oui, c'est une manifestation qui est organisée par Images en Bibliothèque, donc qui est une référence un petit peu dans le monde des bibliothèques pour l'organisation de formations, de conseils, etc. Et tous les ans, donc le mois de novembre est consacré justement à cette présentation dans les bibliothèques, mais aussi les cinémas, les lieux de culture, des films, documentaires. Donc nous, on a décidé de s'y raccrocher dès 2011, comme je disais tout à l'heure, Et tous les ans, on invite des réalisateurs. Alors, on fait un choix dans l'année en amont. On est plusieurs hein, sur la bibliothèque. Je suis pas toute seule, on a des collègues. On se dit, bah, tiens, ça c'est un coup de cœur, ça c'est un coup de cœur. On est partagé aussi entre l'envie de faire venir des réalisateurs qui viendraient de loin, mais au niveau national, mais aussi sur la région, parce qu'il y a un grand vivier de réalisateurs documentaires sur la région. Et quand on a choisi les films, eh bien après, c'est tout un travail qui se met en route. Il faut récupérer les droits de projection. Il faut contacter le réalisateur, voir s'il est d'accord. Parce que l'intérêt, c'est, dans l'animation, c'est de projeter, mais aussi d'avoir un débat à l'issue de chaque projection avec le réalisateur. Et donc, c'est la chasse après à trouver l'adresse du réalisateur pour pouvoir le contacter, voir s'il est d'accord pour venir porter son film. Parfois, c'est un film qui peut dater aussi un peu. On n'est pas forcément dans des sorties très récentes. Et voir si le réalisateur est d'accord pour pouvoir encore porter un film un peu ancien. Ou...
Et là, du coup, cette année, votre mois du doc est marié avec une résidence, la résidence d'une autrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet qui amène à une soirée, qu'on va vous inviter à venir voir, bien sûr?
Donc, en fait, on a travaillé avec Isiaka Anam, qui est notre autrice actuellement en résidence sur Angers. Mais je crois que vous pourrez la découvrir par ailleurs sur d'autres émissions. Quand on a travaillé à cette résidence avec Isiaka, on lui a demandé de choisir un film documentaire pour faire une carte blanche, une soirée carte blanche, de façon à ce que... ça soit aussi dans la thématique de la résidence, mais aussi parce que c'était un de ses coups de cœur à elle. Donc, quand on a parlé, elle nous a proposé un film d'Alice Diop. Donc, Alice Diop a sorti récemment un documentaire qui s'appelle « Nous ». Et nous, on avait aussi envie de projeter « La mort de Danton ». Qui est un de ses films un petit peu plus, qui date un petit peu plus.
Oui, il date de 2011.
Ouais. Voilà. Et la thématique du film nous intéressait, et puis ça avait été aussi un coup de cœur de l'équipe, donc on est tombé tout de suite sur la même longueur d'onde, toutes et tous.
Et alors la thématique alors ?
Alors La mort de Danton, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir absolument acteur dans le milieu du théâtre. Et ce jeune homme, il est issu de quartiers populaires hein, dans la région parisienne, et qui plus est d'origine étrangère, et sa couleur de peau lui fait souvent défaut dans le milieu du théâtre, parce qu'on lui propose de jouer souvent le même type de rôle, à savoir dans des pièces humoristiques, de jouer le rôle du bon nègre. Et lui, voilà, il a envie de faire autre chose. Avec alors le film date de 2011, mais c'est un sujet toujours très actuel, avec toujours cette façon de voir comment on peut appréhender des rôles. Enfin, lui, ce qu'il a envie de faire dans sa vie, c'est de jouer des rôles pas par rapport à sa couleur, mais par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il a envie de jouer.
Et est-ce que Isiaka Anam connaît la réalisatrice Alice Diop?
Elle ne la connaît pas forcément, mais enfin pas. Elle connaissait son travail, mais pas intimement, je dirais. Enfin, pas plus que ça. On avait envie de faire venir Alice Diop, mais ça a été un peu compliqué. Et le film Nous, on voulait le projeter aussi en travaillant avec les 400 coups. Sauf que c'est un film qui n'est pour l'instant pas produit. Enfin, j'ai vu récemment, là, il me semble, dans la presse, qu'il allait trouver un producteur et qu'il ferait une sortie au cinéma. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de sortie au cinéma. Donc, on n'a pas pu...
Il est encore en tournée dans les festivals, donc il ne sort pas encore en salle, peut-être.
Oui, et il devait... je crois qu'il avait été aussi programmé sur Arte. Et du coup, c'était compliqué. Voilà, il fallait attendre qu'il sorte.
D'accord. Et... quel jour va passer ce film ? Et donc, quand pourra-t-on rencontrer Isiaka Anam, pardon.
On vous donne rendez-vous avec Isiaka Anam, justement, le 19 novembre à la Bibliothèque de la Roseraie, pour la projection de ce film de La mort de Danton, et une rencontre aussi en collaboration avec Cinéma Parlant et Louis Mathieu, qui viendra aussi nous aider à présenter ce film et à discuter après, en débattre avec Isiaka, en compagnie d'Isiaka.
Donc je rappelle les infos pratiques, c'est le 19 novembre à 20h, c'est gratuit. Est-ce qu'il est conseillé de réserver ?
On n'a pas mis de réservation, donc voilà, entrée libre.
Donc on se présente un petit peu avant.
Voilà. Par contre, dans les conditions sanitaires actuelles, avec tout ce qui s'ensuit, le port du masque et la présentation d'un pass sanitaire.
Donc le 19 novembre à 20h à la bibliothèque de la Roseraie, rendez-vous pour voir le documentaire « La mort de Danton » d'Alice Diop. Merci beaucoup Valérie Laprade pour cet échange.
Merci à vous.
Et nous espérons que nous vous avons donné envie de venir voir ce beau film. Je poursuis en vous proposant d'autres suggestions sur ce mois du doc. Il y aura une trentaine de soirées tout au long du mois de novembre dans le département de l'Anjou. Je vous propose, pour commencer, La cuisine des justes. C'est un film d'Emmanuel Maurice et Nicolas Thomas sur la cuisine, le vin, le soufre et la vie. Il est présenté en soirée d'ouverture du mois du doc, en présence des réalisateurs, le mardi 9 novembre à 20h au Théâtre du Ponton à la Poissonnière. Je vous propose aussi « Adolescente » de Sébastien Lifshitz, le mercredi 10 novembre à 20h au cinéma Grand Écran de la Pommeraye. On suit le parcours de deux amis d'enfance entre 13 et 18 ans, l'occasion de s'interroger sur l'adolescence aujourd'hui, bien sûr, mais aussi de ce qui forge nos personnalités et destins. Pour finir, un petit coup de cœur pour « Sans frapper » d'Alexey Poukine, présenté le jeudi 25 novembre à 20h au 122, c'est le tiers-lieu culturel de la rue de la Chalouère à Angers. Ce film parle avec force et sobriété du viol, à partir de récits qui se mélangent, tous différents, intimes et pourtant semblables, la même histoire, insensée et banale. Le film est suivi d'un échange avec la réalisatrice et Estelle Moinard, directrice du Centre d'information sur les droits de la femme et des familles, CIDEF. Et voilà pour ce zoom sur le mois du doc. Nous passons sans transition à notre étape suivante. Je rappelle, c'est une pause musicale.
Oui, et vous écoutez Caméra Subjective, le magazine cinéma. Essayez de retrouver le titre, on vous dit après de quel film il est issu.
We'll be right back.
c'était Sissy Strut, un titre issu de la bande originale de Drunk. C'est composé par le groupe The Meters. Drunk, qui est réalisé, c'est un quiz par...
Thomas Vinterberg.
Waouh, bravo. En plus, nous n'avions pas révisé. Et maintenant, c'est l'heure de l'agenda cinéma avec la sélection de Margot.
Alors, que voir au cinéma cette semaine ? Pas de Thomas Vinterberg, a priori. Parce que vous aurez noté que nous sommes en pleine vacances scolaires. Alors en tout cas, ça n'a pas échappé aux distributeurs de films qui ont sorti ces derniers jours plusieurs programmes à destination des jeunes spectateurs. Parmi cette offre foisonnante, je vous conseille le magnifique film d'animation de Tom Moore, Le Peuple Loup, sorti mercredi dernier sur grand écran. Tom Moore, vous le connaissez probablement, car son travail a été mis à l'honneur par le festival Premier Plan il y a...
Ne faut pas se moquer des gens qui sont malades.
Il a notamment réalisé deux longs métrages d'animation remarqués, nommés aux Oscars. Brendan et le secret de Kells, puis Le chant de la mer, mon préféré. Pour chacun de ses films, ce réalisateur irlandais s'inspire de légendes celtes, avec des personnages un peu magiques. Le peuple loup n'échappe pas à cette règle. Dans ce nouvel opus, situé à Kilkenny en Irlande, à la fin du Moyen-Âge, nous découvrons les Wolfwalkers, humains le jour et loups pendant leur sommeil. Ces créatures sont menacées par des chasseurs chargés de sécuriser les forêts avant l'abattage des arbres. Le père de Robin, 11 ans, est l'un d'entre eux. Un jour où l'intrépide demoiselle s'est échappée dans la forêt, elle rencontre May, avec qui elle devient amie et dont elle perce le mystère. May est une Wolfwalker. Alors je n'en dirai pas plus sur l'histoire, pleine de rebondissements et de suspense, mais j'aimerais souligner la beauté graphique de cette fable écologique qui prône le respect de la nature et la solidarité entre les humains. Ce film est à découvrir avec des enfants dès l'âge de 7 ans, mais je ne doute pas qu'il plaira aussi aux plus grands. Vous pouvez le voir à Angers, bien sûr, mais aussi dans plusieurs cinémas de la Sarthe, où se tient, pendant les vacances, un super festival de cinéma destiné au jeune public. Graines d'images junior. Programme copieux et alléchant pour la 23e édition, avec une sélection de 14 films, dont plusieurs avant-premières, des rencontres, des ateliers ludiques autour du cinéma, un concert de musique irlandaise et bien d'autres animations.
À propos d'animation, c'est bientôt Halloween.
Absolument. Et comme les distributeurs de films, les salles de cinéma ne l'ont pas oublié. Ce dimanche 31 octobre, le cinéma Les 400 coups vous propose une programmation thématique avec le matin à 11h pour toute la famille, la projection du film d'animation Hôtel Transylvanie. Vampires, squelettes, loups-garous et autres monstres d'Halloween sont au programme dans ce film qui n'oublie pas d'être drôle et ça c'est important. Le soir pour les adultes, combo de l'épouvante avec la reprise du désormais classique Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, suivi de Evil Dead 2 de Sam Raimi. Alors, trick or treat ?
Des bonbons ou un sort, en bon français. On passe, pour finir, à toute autre chose.
Effectivement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'émission d'il y a 15 jours, je vous avais parlé d'Alice Guy, la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma. Eh bien, je vous propose ce soir de poursuivre l'exploration des débuts du 7e art.
Le 28 décembre 1895 a toujours été raconté comme une date révolutionnaire, celle de l'invention du cinéma. Dans l'histoire, elle correspond à la première projection publique payante du cinématographe des Frères Lumière au sous-sol du Grand Café à Paris. Et pourtant, il existait déjà un œil cinématographique avant même l'arrivée du cinéma. Il s'est éveillé, progressivement, pour donner au tournant du XXe siècle naissance aux spectateurs que nous sommes encore aujourd'hui.
Alors nous venons d'écouter le tout début du passionnant documentaire de Stéphane Kornik, intitulé « L'œil, le pinceau et le cinématographe ». Illustré par de nombreuses images d'archives, des tableaux, des gravures ou des photos, ce documentaire érudit et vivant revient sur la naissance du 7e art à la fin du 19e siècle, alors que la révolution industrielle a bouleversé la société française et la vie parisienne. Convoquant des historiens de la peinture, de l'architecture et de la photo, le commentaire s'attache à montrer que le cinéma n'est pas une création ex nihilo, mais qu'il procède au contraire des réflexions esthétiques et techniques de son époque. Il découle notamment des expérimentations sérielles des peintres impressionnistes et s'inscrit dans l'ère du temps, propice aux flâneurs et aux badauds qui observent le spectacle d'une capitale en pleine effervescence, suite aux aménagements du baron Haussmann. Cette construction du regard se traduit en peinture et en photographie par l'invention d'un vocabulaire moderne, fait d'angles de vue obliques, de plongées, de contre-plongées, de gros plans et de vues aériennes. Bref, des innovations esthétiques dont le cinématographe s'emparera dès ses débuts en 1895. Et c'est l'avènement de cet œil cinématographique que décortique de façon passionnante le documentaire « L'œil, le pinceau et le cinématographe » qui est à visionner gratuitement jusqu'en janvier sur le site arte.tv et que je vous conseille vivement.
Transition, transition. Nous passons à la séquence sonore. Merci Anneli de nous révéler enfin ce que ça va devenir.
Et oui, vous rappelez-vous de l'ambiance de ce film qui finissait en nous disant « N'ayez pas peur ou ayez peur ». De très nombreuses personnes ont été marquées par ce film de science-fiction, pour l'histoire, la mise en scène ou les décors et maquillages. Ce soir, nous sommes avec La Mouche, réalisé par David Cronenberg et sorti en 1986. Le cadre est tout à fait classique dans un film de ce genre. Seth Brundle, incarné par Jeff Goldblum, est un scientifique solitaire et excentrique qui travaille sur l'impossible, la téléportation. Lors d'une soirée, il rencontre la journaliste Veronica Cave, jouée par Gina Davis. Elle visite alors son appartement laboratoire et découvre les télépodes qu'il a construits. Seth propose à Veronica de garder le secret de ses recherches en échange des droits exclusifs pour les documenter. Bien sûr, tous les deux vont finir par nouer une relation qui va permettre à Seth Brundle de trouver la clé de ses recherches. Seth essaiera sur lui-même sa folle invention qui fonctionne. Mais, évidemment, le protocole ne se passe pas tout à fait comme prévu puisqu'une mouche s'est glissée avec lui dans la cabine de téléportation. Le film tourne autour de cette recherche scientifique délirante, mais surtout autour des relations entretenues par les personnages. Ce que j'aime avec La Mouche, c'est qu'on peut regarder ce film de différentes façons. La première fois, je l'ai vu de façon drôle et décalée. La deuxième fois, j'ai vu toute l'horreur, le trash et les éléments flippants. Et la troisième fois, j'ai compris qu'il s'agissait d'un film d'amour et de romance. Alors oui, pour tout ça, le scénario de départ est très simple, assez identifié SF, tellement qu'on peut le trouver décalé, voire désuet, notamment avec cette sorte de Minitel géant qui rend possible la téléportation. On est à une époque où il n'y a pas l'internet globalisé. Mais peu à peu, La Mouche flirte avec le film d'horreur. Sur la base de cette fusion humain-mouche, qui au départ ne semble pas si grave, le scénario va toujours plus loin et explore toutes les possibilités de transformation. Métamorphose. Voilà un mot-clé pour ce film où les costumes et maquillages sont très importants et très réussis. L'équipe de Chris Wallace et Stéphane Dupuis a d'ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur maquillage. Préparez-vous pour des scènes un peu dégueu, il faut être honnête. La Mouche, c'est aussi une métaphore sur la maladie qui questionne ce que l'on ferait face à la transformation d'un de ses proches. Car si Veronica reste dans cette situation affreuse, c'est bien par amour. Mais là où je veux attirer votre attention dans ce film, c'est qu'au-delà du cadre science-fictionnel, si tout dérape, c'est bien du fait des personnages et de leurs émotions. La Mouche est presque un huis clos. 80% de l'intrigue se passe en intérieur, centrée autour de ces trois personnages. Le scientifique, Seth, la journaliste, Veronica, et le patron de cette journaliste, Statis, qui est aussi son ex. Et vous verrez, si tout bascule, c'est bien à cause d'un ex toxique et d'un nouvel amant qui ne sait pas gérer sa jalousie. Et vraiment, j'ai de la solidarité pour cette journaliste, Veronica, qui ne méritait pas de se retrouver dans cette galère. C'est la seule à dire des choses sensées dans cette histoire, entourée de ces deux personnages masculins qui ne savent pas l'écouter. Je termine en vous signalant que le jeu des acteurs est formidable, principalement Jeff Goldblum, qui est à la fois affable et très inquiétant, et Gina Davis. Et bien sûr, la mise en scène et les images sont au top. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus, malheureusement, mais j'espère vous avoir donné envie de voir ce film, qui est culte, même si tout le monde dans ce studio ne l'a pas vu. C'est le plus grand succès populaire de David Cronenberg, La Mouche. Et je vous le conseille pour votre soirée d'Halloween.
Bien, merci Anne-Li. Après une histoire de mouche, nous passons à une histoire de vache.
Alors laissez-moi vous planter le décor. Une large rivière sur laquelle passe lentement un cargo chargé de marchandises. Des rives de galets à l'allure désertique, un chien et sa maîtresse qui se promènent. Seuls les aboiements de l'animal et la sirène du cargo brisent le silence de cette matinée calme. Le chien fouille le sol et s'affaire au pied d'un arbre. il finit par déterrer un crâne humain. Sa maîtresse s'approche et fouille la terre à son tour. Le plan suivant, plus large, nous permet de découvrir non pas un, mais deux squelettes allongés côte à côte. Ainsi débute le 7e film de Kelly Richard, First Cow, que vous pouvez désormais découvrir sur grand écran avec après son exploitation sur la plateforme VOD Mubi.
C'est un peu scabreux comme séquence d'ouverture, non ?
Alors c'est quand même pas un film d'Halloween, et finalement, pas du tout. Et cela tient à la mise en scène. Ce qui frappe dès cette première séquence, c'est le rythme et l'atmosphère du film. Kelly Richard choisit de faire durer ses plans, le passage du cargo, la fouille délicate de la jeune femme, et opte pour un environnement sonore minimaliste, conférant une tonalité naturaliste à la séquence. Filmée sans emphase, la découverte macabre devient ainsi le point de départ d'une chronique poignante et lumineuse sur l'amitié entre deux hommes. Cookie, un cuisinier malmené par une troupe de trappeurs, et King Lou, un fugitif d'origine chinoise.
Who's there? Hello? You all right?
Hungry. There are some men chasing me.
This is a land of riches, I tell you.
It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start.
On le comprend dans ce court extrait de la bande-annonce de First Cow. Cookie et King Lou sont venus chercher le bonheur, et surtout la fortune, dans l'Ouest américain encore sauvage. Car après la séquence d'ouverture, le film bascule dans les premières années du 19e siècle, au temps de la frontière avec un grand F, décor habituel d'un genre cinématographique typiquement américain.
Le western.
Mais là encore, le film de Kelly Richard nous surprend. Loin d'être une énième variation sur la conquête de l'Ouest, avec des trappeurs à la place des chercheurs d'or, il impose au contraire sa singularité par sa tonalité lente et tellurique. Plutôt que d'abonder la légende américaine, il met l'accent sur l'intime et l'universel. L'amitié profonde et la loyauté entre deux hommes.
L'oiseau a son nid, l'araignée sa toile, et l'homme, l'amitié.
Et non cette magnifique citation du poète William Blake, placée en exergue du film. Le choix du format de l'image participe aussi de cette célébration de l'amitié. Plutôt que le scope, inventé pour le western justement, et ses paysages grandioses, la réalisatrice opte pour un format plus carré, primitif presque, puisqu'il se rapproche de celui des premiers temps du cinéma, le 4 tiers. Et à l'écran, Cookie et King Lou, d'abord filmés en champ contre champ, c'est-à-dire chacun seul à l'image, se rejoignent dans le cadre à mesure que leur complicité grandit.
Dans First Cow, j'ai choisi le cadrage en 4 tiers pour montrer les montagnes et l'altitude plutôt que l'élargissement de l'espace. En fait, c'est un cadrage très intime, une manière de suivre la frugalité, l'économie de ces personnages et leur intimité. Dans mon film, on est dans l'intime et non dans le grandiose.
Explique Kelly Richard. Et là est le projet de la réalisatrice, avec ce film à hauteur des vies modestes, presque triviales de ces personnages. Proposer aux spectateurs une vision de l'Amérique des pionniers dépouillée de ses mythes. Réaliser une sorte d'anti-western salvateur à l'encontre de la représentation habituelle de la conquête de l'Ouest.
Un anti-western.
Oui, absolument. Alors que le western classique glorifie le cow-boy viril qui conquiert le territoire en chassant indiens et malfrats, le film de Kelly Richard prend au contraire pour héros deux marginaux, sorte de pieds-nickelés attachants, et il fait constamment l'éloge de la fuite et du camouflage. Et plutôt que de montrer la construction d'une voie de chemin de fer, sujet récurrent dans le western pour évoquer l'avènement de la modernité dans un Far West frustre, First Cow se concentre sur une autre arrivée, en apparence plus modeste et anecdotique, celle de la première vache, qui marque le début d'un certain confort pour son propriétaire, le potentat du comptoir marchand où Cookie et King Lou sont installés.
Tall cow today.
First cow in the territory.
This ain't a place for cows.
Well, it's no place for white men either.
L'action de cet animal donne à nos deux héros l'occasion de s'associer pour s'enrichir aux dépens de son propriétaire. Quand Cookie s'installe la nuit pour traire la vache en cachette, King Lou fait le guet. Puis Cookie cuisine de délicieux beignets que King Lou se charge de vendre de plus en plus cher sur le marché. Parti de rien, les deux amis ont bientôt amassé une coquette somme qui doit leur permettre de réaliser leur projet d'avenir en Californie. Leur entreprise risquée est surtout l'occasion pour la réalisatrice de décortiquer les ressorts de l'esprit d'entreprendre, cher à ses compatriotes, et d'interroger les travers du capitalisme américain naissant, suggérant, non sans malice, qu'il repose sur un vol initial. Celui du lait de la vache du Potentat pour Cookie et King Lou, et à un autre niveau, celui de la terre des Amérindiens que se sont appropriés les pionniers colons, les premiers colons. À cet égard, souvenez-vous du premier plan du film que j'évoquais tout à l'heure. Le lent passage d'un cargo sur la Columbia River. 2 heures plus tard, mais 200 ans plus tôt dans l'histoire américaine, l'un des derniers plans du film montre le canoë d'un Amérindien qui glisse silencieusement sur ce même cours d'eau, profitant de ce paradis dont il sera bientôt déchu.
First Cow de Kelly Richard est visible en salle de cinéma depuis mercredi dernier. Merci beaucoup Margot pour ce conseil. Nous sommes en retard pour terminer cette émission, mais nous prenons le temps de vous saluer, de vous souhaiter une bonne soirée, de vous dire à dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio G, à la page de Caméra Subjective. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler dans 2 semaines ? C'est la surprise.
Ce sera une surprise.
Nous nous regardons interdites. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, si vous avez aimé cette émission ou non, on sera ravis de vous lire. Bonne soirée, à dans 2 semaines.
Vous arrivez en retard.
Au revoir.
Ou seulement ceux qui sont pas importants.